France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, vie et mort de Jean Zay. Il était l'un des hommes politiques les plus brillants, les plus admirables et les plus intègres de la Troisième République. Ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, on lui doit tant. L'ENA, le Festival de Cannes, le SNRS, le sport à l'école, les bibliobus, pour ne citer que, on y reviendra. Eh bien, c'est cet homme-là qui est lâchement abattu le 20 juin 1944, puis abandonné en pleine forêt par la milice, le bras armé de Vichy, qui n'a cessé de s'acharner sur lui. D'abord, un procès inique en 1940 à Clermont-Ferrand, durant lequel il est faussement accusé de désertion devant l'ennemi. S'en suivent 4 longues années à la prison de Royan, le calvaire d'un homme soutenu heureusement par ses amis et surtout par sa femme, Madeleine, et leurs deux filles qui lui rendent visite chaque jour. Républicain jusqu'au bout des ongles, laïque, universaliste, humaniste, juif par son père, franc-maçon, radical donc de gauche, Jean Zay incarne tout ce que l'extrême droite déteste depuis toujours. C'est d'ailleurs la revanche de cette droite antisémite sur l'affaire Dreyfus, cet homme dont l'innocence éclate de son vivant. Celle de Jean Zay, condamnée à la même peine que Dreyfus, n'est reconnue elle qu'à titre posthume en 1945. Et son entrée au Panthéon, en 2015, 71 ans après sa mort, fera encore polémique, indécente, quand on connaît la valeur de l'homme dont on célèbre la mémoire. Nos invités aujourd'hui, Hélène Mouchard-Zay, l'une des deux filles de Jean Zay, et l'historien Olivier Loube, auteur du livre « Jean Zay, la République au Panthéon ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Deschamps, rédaction en chef Franck Cognard. Chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 20 juin 1944, à 10h30 tapante, une traction avant noire stoppe brutalement devant la maison d'arrêt de Royan. À l'intérieur, 3 hommes pressés portant la tenue sombre et cauchemardesque des miliciens. 2 d'entre eux entrent dans la prison, mitraillettes au poing, et présentent au directeur un ordre de transfert du détenu Jean Zay vers le centre pénitentiaire de Melun, en région parisienne. Une demi-heure après, la Citroën repart. Pour Amadou et Jean Zay, les miliciens lui font croire qu'ils sont en réalité des résistants venus le libérer. L'un d'eux précise même qu'ils vont retrouver d'autres maquisards à une quinzaine de kilomètres de Vichy, au lieu dit les Malavaux. Jean Zay, confiant et heureux de cette liberté retrouvée après 4 longues années de détention, se laisse faire. Arrivé sur le soi-disant lieu du rendez-vous, à proximité d'un ravin, il prend donc le temps de s'asseoir, de s'éponger le front et d'essuyer ses lunettes, car il fait déjà très chaud en cette fin de printemps 44. C'est alors qu'il reçoit un coup de matraque, trac, par derrière. À demi assommé, il se relève péniblement. Abasourdi, lâche, alors, vous n'êtes pas des amis? Pour toute réponse, le milicien Charles Debel braque sa mitraillette vers lui et tire. Jean Zay a tout juste le temps de crier « Vive la France !» avant de s'effondrer sur le sol, mort. Pour empêcher toute identification, les miliciens déshabillent le cadavre, arrachent son alliance, le jettent dans un ravin nommé le Puits du Diable, puis ils lancent des explosifs pour effacer toute trace de leur crime. Et si l'on connaît aussi précisément le déroulé des faits, c'est parce que Charles Devel, le milicien qui l'a abattu, le racontera en détail lors de son procès en 1953. Mais pour l'heure, Jean Zay est l'un des hommes les plus éminents et les plus remarquables de la Troisième République qui vient de disparaître. Ce que ne manque pas de rappeler Léon Blum, l'ancien leader du Front populaire, devenu président du gouvernement provisoire après la guerre, lors de l'hommage dithyrambique qu'il lui rend en 1947 à la Sorbonne.
Tout en lui respirait la noblesse de la pensée, le désintéressement, la loyauté, le courage, l'amour du bien public. Quel admirable instrument façonné d'avance pour les plus grands postes de la vie nationale. Il il en a été payé par l'envie, par la calomnie, par l'outrage, par un arrêt qu'on a cru rendre infamant, par un long emprisonnement, enfin, par un assassinat si lâchement et si minutieusement perpétré qu'on n'en connaît encore ni le lieu exact, ni les circonstances.
Au jour de cette déclaration, Jean Zay, toujours porté disparu, il allait avoir 40 ans. Sa vie a commencé à Orléans, le 6 août 1904. Son père, Léon, journaliste et juif alsacien. Sa mère, Alice Chartrain, beauceronne, est institutrice et protestante. Mais la religion ne compte guère dans cette famille qui élève Jean dans le respect des valeurs laïques, républicaines et l'engagement patriotique. Une ligne de conduite qu'il tiendra toute sa vie. Toutefois, la Première Guerre mondiale est un premier accroc dans cette vie sans histoire. Son père, qu'il admire tant, part au front pour 4 ans, à l'issue desquels il est décoré de la prestigieuse Croix de guerre. Léon transmet très tôt à Jean le goût de l'écriture, de la littérature et de la philosophie. 3 passions qui ne le quitteront jamais. Ainsi, dès 12 ans, le petit garçon rédige des journaux pour sa famille. Il brille également à l'école, comme le montre cet extrait d'une composition française de 1916, publiée dans le bulletin de l'instruction publique du Loiret. On peut y lire « Le soldat qui, sur le champ de bataille, s'écroule percé de balles pour son pays à une mort sublime ». Une fibre patriotique indiscutable, mais qui sera remise en cause plus tard, comme nous le verrons. En octobre 1916, une bourse lui permet d'entrer au lycée Potier, à Orléans. Il s'y fera des amis pour la vie. C'est avec eux d'ailleurs qu'il crée en 1920 un journal lycéen, Le Potage Bouillant, critique et caustique. Puis en 1925, Le Grenier, revue littéraire d'avant-garde, illustrée par sa sœur Jacqueline. Jean Zay est un jeune homme pressé. Bachelier en 1923, il devient journaliste au Progrès du Loiret pour financer ses études de droit. À 24 ans, il endosse la robe d'avocat et il se fait remarquer lors de 2 procès d'assises difficiles. Il a également à cœur de plaider pour les associations professionnelles et syndicales. En mars 1931, il épouse Madeleine Dreux, avec laquelle il aura 2 filles, Catherine en 1936, puis Hélène en 1940. Précoce en tout, il s'inscrit en 1925, dès ses 21 ans, au Parti radical. Une formation de gauche, on dirait aujourd'hui social-démocrate, au sein de laquelle il fait très vite ses preuves, comme le raconte Pierre Ménès France en 91 sur France Culture, dans l'émission Profil perdu.
Très vite, Jean Zay s'est révélé comme le plus lucide, le mieux informé parmi nous et le plus mûr aussi. Et il est devenu en fait le principal animateur de ce que l'on désignait sous le nom inattendu de jeune turc. Personnellement, j'étais plein d'admiration pour un homme dont le talent, le sens politique, le jugement, la clairvoyance étaient remarquables. Il était brillant, spirituel, éloquent. Très vite, dans nos réunions de groupe, comme dans les grands congrès, il exerçait une réelle influence dont les dirigeants du parti ne pouvaient pas ne pas tenir compte.
En 1926, il est initié comme franc-maçon à la loge Étienne Dolé du Grand Orient de France, aux côtés de son père. Puis, de retour du service militaire en 1928, il relance la section d'Orléans des jeunesses laïques et républicaines, les JLR. En 1932, à 27 ans, il est élu député radical de la première circonscription d'Orléans. Durant cette première campagne électorale, il fait déjà l'objet de violentes attaques antisémites de la part de l'extrême droite nationale catholique locale, relayée notamment par le journal du Loiret. Dans ses colonnes, le 27 avril 1932, celui-ci n'hésite pas à écrire.
La cité de Jeanne d'Arc, ô honte suprême, ô infamie, ô déchéance inconcevable, subira-t-elle l'opprobre d'un député juif ? Pour la gloire si pure de notre ville, pour notre héroïne si chère. Il ne faut pas que cela soit.
Cause toujours, Jean Zay est élu. Mais tous les prétextes sont bons pour salir la réputation de cet homme irréprochable. Surtout en cette période de montée du fascisme. C'est ainsi qu'en 1934, 3 jours après l'échec de l'émeute factieuse du 6 février à Paris, le journal national d'extrême droite, l'Action française, publie l'extrait d'un pastiche de jeunesse de Jean Zay intitulé « Le drapeau ». écrit à 19 ans et jamais publié, le jeune étudiant y déplore les 15 500 morts de la Grande Guerre.
Ils sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie. 1500 000 dans mon pays, 15 millions dans tous les pays. 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 morts pour cette saloperie tricolore. 1500 000 hommes morts, dont chacun avait une mère, une maîtresse, des enfants, une maison, une vie, un espoir, un cœur. Qu'est-ce que c'est que cette loque pour laquelle ils sont morts ?
Nullement embarrassé, Jean Zay réplique dans un communiqué : ce texte ne constitue à aucun degré la manifestation d'une opinion. Non, il est emprunté à une série de pastiches échangées dans une correspondance privée. Le même communiqué indique un peu plus loin, fort à propos, que l'Action française se garde bien de publier les autres pastiches signés Desroulettes, Léon Daudet, Charles Péguy. Mais rien n'y fait. Cet écrit sert de chiffon rouge à l'extrême droite qui l'agitera à la moindre occasion pour mettre en cause le patriotisme de cet homme de gauche. Comme l'analyse en 2013 l'historien Gérard Boulanger dans son livre « L'affaire Jean Zay, la République assassinée », sur le grand air de la calomnie, il vient d'essuyer les premières salves d'un tir qui ne demande qu'à se nourrir et qui ne prendra fin d'une rafale de mitraillettes qu'avec son propre assassinat. Un antisémitisme primaire qu'Hélène Moucharzel, sa fille, expliquait ainsi en 2015 sur France 3, Centre Val-de-Loire.
Je crois que dans la thématique antisémite, le thème du juif qui, s'occupant d'éducation, va corrompre les esprits des enfants, c'est un thème très fort. Alors, il y a tout. Il est ministre du Front Populaire de Gauche, de l'Éducation nationale, partisan de la fermeté envers Hitler, juif, franc-maçon. C'est vraiment la cible emblématique de Vichy.
Cette haine inouïe n'empêche pas Jean Zay d'être réélu député en mai 1936 après un mandat très actif. Un ancrage local fort qu'il maintient, même après sa nomination un mois plus tard, le 4 juin, en tant que ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire. Les nombreuses œuvres accomplies par le ministre visionnaire Jean Zay ont déjà été citées sur cette antenne. Il n'est pas inutile de les rappeler tant l'œuvre est spectaculaire. Accrochez-vous. L'idée du Festival de Cannes, c'est lui. Le CNRS, la Cinémathèque, l'ENA, et non Michel Debré, comme on le dit encore trop souvent. C'est Jean Zay. Nos grands musées parisiens actuels, celui des arts modernes, dit le MAM, celui de l'homme, de la marine et des arts et traditions populaires, c'est lui. Du côté de l'éducation nationale, l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans, l'amorce du collège unique, c'est lui. L'éducation physique, la médecine préventive à l'école, les classes vertes, les bibliobus, la radio scolaire ou bien encore le cinéma éducatif, c'est toujours lui. Et ce n'est pas fini. La modernisation du concept de droit d'auteur, c'est lui. La rénovation de la Bibliothèque nationale et de la Comédie française, la restauration du château de Versailles et de la cathédrale de Reims, sans oublier l'organisation de l'Expo universelle de 37, c'est toujours lui. Et encore, cette liste déjà impressionnante est loin d'être exhaustive. Pas étonnant que tant de collèges et de lycées portent son nom aujourd'hui en France. De plus, brillant orateur, il prend souvent la parole en public, comme le 5 mai 1939 pour les 150 ans de la Révolution française.
C'est pour l'humanité entière, en effet, et non pour les seuls Français, que l'Assemblée nationale pensait travailler en discutant du 13 au 26 août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est en ce lieu aussi qu'a été formulée cette charte du monde moderne. On s'est appliqué à en rechercher les origines anglaises et américaines, et loin de les répudier, c'est aujourd'hui pour nous une joie et un réconfort de constater qu'un lien historique nous rattache aux deux grandes communautés libérales d'outre-mer. La Déclaration n'en est pas moins bien à nous. Elle est le résumé de notre philosophie du XVIIIe siècle. Et ses formules, il suffit pour s'en convaincre de se reporter au débat, sont l'œuvre originale des hommes de 1789.
Mais cette période faste en progrès sociaux, avec notamment les premiers congés payés et la semaine de 40 heures, cesse brusquement, avec l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne le 3 septembre 1939. Jean Zay s'engage sous les drapeaux sans hésiter une seule seconde. Dans sa lettre de démission au président du Conseil, le 3 septembre 1939, il écrit.
Âgé de 35 ans, je désire partager le sort de cette jeunesse française pour laquelle j'ai travaillé de mon mieux, au gouvernement depuis 40 mois. Je demande donc à suivre le sort normal de ma classe.
Jean Zay est affecté en Lorraine au grade de sous-lieutenant. Ses chefs militaires l'attestent, il est volontaire pour les missions les plus périlleuses et les plus délicates. Il n'est plus ministre, mais il reste député. C'est pourquoi il décide le 19 juin 40 de rejoindre le Parlement replié alors à Bordeaux, soit deux jours après la célèbre allocution de Pétain où le maréchal offre ce cadeau empoisonné à la France, sa personne. Et parvenu à Bordeaux dans la soirée, Jean Zay apprend que le Parlement entend poursuivre le combat à Alger et qu'à cet effet, un bateau va être officiellement affrété. Mais il s'agit d'un piège tendu par le tout nouveau régime de Vichy. De bonne foi, le 20 juin 1940, de nombreux militaires et 27 parlementaires embarquent donc officiellement, le mot est important, sur le Massilia. Parmi les passagers, Pierre Mallès-France, Georges Mandel et bien sûr Jean Zay, qui a été rejoint par sa famille. C'est la conscience républicaine et antifasciste qui monte dans ce bateau. Mais dès le 22 juin, sous la pression de Pierre Laval, le nouvel homme fort de Vichy, l'armistice est signé et c'est la République en assassine. Dès lors, la nasse se resserre sur les passagers du Massilia qui accostent le 24 juin à Casablanca au Maroc. Le 27, Jean Zay s'installe à Rabat avec sa fille et sa femme enceinte. Spontanément, il propose ses services aux autorités locales. Mais en métropole, le vent a tourné. Ses résistants de la première heure sont à présent considérés comme des fuyards. Et Jean Zay est arrêté à Rabat le 16 août 1940. Rapatrié, il est aussitôt incarcéré à la prison militaire de Clermont-Ferrand. Il est encore convaincu, à ce moment-là, de pouvoir faire éclater son innocence, comme il l'écrit à sa femme et que nous rapporte sa fille, Hélène, le 3 mai 2015 sur France 3, Centre Val-de-Loire.
Il lui dit, bon, ça va aller, j'ai confiance, j'ai vu le juge d'instruction trois fois, il ne lui dit rien des détails de l'affaire, mais voilà, ma bonne foi, mon innocence va être reconnue. J'ai confiance à la justice et je crois, il le croit.
Après un simulacre de procès instruit uniquement à charge pour désertion devant l'ennemi, le tribunal militaire de Clermont-Ferrand condamne Jean Zay le 4 octobre 40 à la déportation et à la dégradation militaire. C'est la même peine, et ce n'est pas hasard, que celle prononcée fin 1894 à l'encontre d'un certain Alfred Dreyfus. Sinistre résonance, Jean Zay est la première victime politique du régime de Pétain. Jugé avec trois autres passagers du Massilia, il subit la peine la plus sévère, comme le détaille l'historien Antoine Prost dans le documentaire de Catherine Bernstein de 2011, intitulé « Un crime français ».
La hiérarchie des sanctions est tout à fait caractéristique. Vous avez un obscur qui n'a jamais été ministre et qui est de droite, qui s'appelle Wiltzer. Lui, non-lieu. Vous avez ensuite Viennot, qui est démocrate chrétien, qui n'est pas franc-maçon, pas juif, et qui a été secrétaire d'État. Prison avec sursis. Vous avez Mendès France, qui est juif et qui a été secrétaire d'État au budget pendant un mois, six mois ferme. Et puis vous avez Jean Zay, qui est juif, qui est franc-maçon, qui a été ministre plein du Front Populaire, et lui, c'est la détention à perpétuité en enceinte fortifiée.
Adieu, mon cœur, on te jette au malheur, tu n'auras pas mes yeux pour mourir.
Triste autant qu'un
voiture. Autrefois tu respirais le soleil d'or, tu marchais sur des trésors. On était vagabonds, on aimait les chansons. Ça finit dans la prison. Adieu, mon cœur, les échos du bonheur font un chant triste autant.
Aujourd'hui, Jean Zay.
France Inter.
Et de cette pensée occidentale, antique et chrétienne, elle perpétue l'universalisme en offrant à tous les hommes, sans distinction, la bonne nouvelle : les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Affaires sensibles.
Jean Zay passe tout d'abord 4 mois à la prison militaire de Clermont-Ferrand. Le 6 décembre 1940, il est placé au secret dans le sinistre Hautfort Saint-Nicolas à Marseille. On le prive de tout. Ses livres, son tabac, son rasoir, son stylo, sa montre, et jusqu'à son alliance. De plus, sans lumière et sans feu, il grelotte et il tombe malade. Heureusement, si l'on peut dire, le 7 janvier 1941, il est transféré à la maison d'arrêt de Royon. Là au moins, il peut lire les journaux, écrire et cultiver même un petit potager dans la cour jouxtant sa cellule. Mais surtout, à partir du 30 mars, il a droit, enfin, aux visites de sa femme, Madeleine, et désormais de ses deux filles, puisqu'Hélène est née quelques semaines auparavant à Casablanca. Des retrouvailles que Jean a racontées dans une lettre et que nous restituait Catherine, le 3 septembre 2015, sur France 3 Centre Val-de-Loire.
Ce matin, donc, à 11h10 exactement, s'est produit l'événement si heureux pour moi que jusqu'à la dernière minute, je n'arrivais pas à y croire. Ma porte s'est ouverte. Et j'ai vu apparaître d'abord la Catou, précédant impatiemment sa maman et sa petite sœur. Je ne te décrirai pas notre joie à tous quatre. Catou était si émue que pendant près d'une demi-heure, elle ne m'a pas articulé un son. Elle s'est rattrapée depuis. Madeleine est ravie d'être enfin près de moi. Quelles que soient les difficultés alimentaires à envisager. Quant à Léno, elle n'exprimait pas de sentiments, mais tu peux deviner ma joie à la connaître, enfin.
C'est bien pour ne pas mettre sa famille en danger que le prisonnier exclut tout projet d'évasion. Il est en revanche très actif. Jour après jour, il noircit des feuillets sur lesquels il raconte et analyse ses souvenirs personnels et politiques. Des documents rassemblés et publiés dès 1946 sous le titre « Souvenirs et solitude ». Jean Zay rédige également des textes pour nourrir les tracts de la résistance. Des écrits qu'il fait passer astucieusement à l'extérieur en les cachant au fond du landau d'Hélène, qui, âgée de quelques mois, devient en quelque sorte et en toute innocence la plus jeune résistante de France. Jean Zay écrit aussi deux polars, oui, « La bague sans doigt » et « Le château du silence », aujourd'hui succès de librairie. Mais même s'il semble tenir le coup, il n'en est pas moins en état de mort civile, privé de tous ses droits élémentaires, comme l'indique l'historienne Anne Simonin dans Un crime français.
Jean Zay va se retrouver dans la situation suivante. Il ne peut plus voter, il ne peut pas être élu, il ne peut pas transmettre ses biens, il ne peut plus être avocat, il ne peut plus toucher de pension. Il ne bénéficie plus de la gratuité des soins. Il ne peut évidemment plus porter ses décorations. Il ne peut pas être professeur. Et donc, si vous voulez, vous avez un bloc d'incapacité, de déchéance, d'interdiction professionnelle qui le frappe, qui font que cet homme qui a été l'incarnation de ce qu'est l'homme politique de la Troisième République se trouve avoir, le 4 octobre 1940, moins de droits que le premier citoyen venu en France et que donc sa personnalité juridique est totalement anéantie pour un crime qu'il n'a évidemment pas commis parce qu'il n'existe que dans la tête de ses juges militaires. Ce jour-là, on a anéanti l'homme politique Jean Zay.
Quatre longues années durant lesquelles Jean Zay ne cesse de penser à son avenir et au rôle politique qu'il pourrait tenir une fois la guerre terminée, la dramatique parenthèse de Vichy refermée et la République restaurée. Mais les plus hautes sphères du régime autoritaire de Pétain s'activent en coulisses pour l'éliminer avant même l'offensive des Alliés. La milice, qui détient les postes clés de l'administration pénitentiaire de Vichy, est alors sollicitée. Ainsi, en avril 44, le milicien Henri Carbonnier, directeur de l'administration pénitentiaire de Clermont-Ferrand, est informé que Jean Zay sera bientôt transféré. Le débarquement en Normandie précipite les choses. Et Maurice Tixier, gardien-chef de la prison de Royon, est averti que ce transfert aura lieu à la mi-juin. Une information qui parvient aux oreilles de Jean Zay. Le 19 juin, il écrit à Madeleine une lettre d'autant plus bouleversante qu'il s'agit de la dernière.
Mon cher petit amour bien-aimé, voici la dernière étape. Celle qui sera brève et au bout de laquelle nous nous retrouverons unis et tranquilles dans notre bonheur avec nos filles. Elle était inévitable. Il faut la supporter avec courage et confiance, avec une certitude entière et une patience inébranlable. Ainsi je ferai, même loin de toi, même sans nouvelles. Chacun de nous restera plus près que jamais de la pensée de l'autre et lui inspirera à distance toute sa force. Je pars plein de bonne humeur et de force. Je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route. J'ai le cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur. J'attendrai, comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de nous retrouver tous. Embrasse papa, Jacqueline, pour moi de tout mon cœur et dis-leur confiance. Serre dans tes bras mes petites filles bien-aimées.
Mais ce que Jean Zay ne sait pas, c'est que son arrêt de mort est déjà scellé. En effet, les transferts sont habituellement exécutés par les gendarmes et non pas par la milice. Autre indice inquiétant, la prison de Melun n'est à aucun moment mise au courant de l'arrivée du prisonnier dans ses murs. Les trois miliciens désignés pour accomplir cette basse besogne sont Henri Milloux, Charles Devel et Pierre Cordier. Ils se présentent évidemment à la prison de Royon sous de faux noms. Puis, quelques heures plus tard, ils accomplissent l'irréparable, l'impardonnable. On l'a vu, assassinant Jean Zay en pleine forêt, jetant son corps dans un ravin. Ignorant tout du drame qui vient de se dérouler, Madeleine Zay, accompagnée de ses deux filles Catherine et Hélène, alors âgées de 7 et 4 ans, se présente comme chaque jour à la prison de Royon. Étonnée, pour ne pas dire plus, de trouver la cellule de son mari vide, elle se renseigne auprès du directeur qui lui indique que trois hommes sont venus le chercher pour l'emmener à Melun. Débute alors une sinistre mascarade. Pierre Laval en personne reçoit deux fois Madeleine Zay. Celle-ci se démène en tous sens pour obtenir des nouvelles de son mari, en vain. Et un récit farfelu va alors circuler, comme le raconte l'archiviste et historienne Caroline Piketty dans Un crime français.
Je suis partie le 20 juin 1944 à Rion, accompagnée des Frangardes, des Rochemont et Laurent, avec une voiture traction avant, prendre possession du prisonnier Jean Zay interné à la maison d'arrêt pour le transférer à Melun. Un camion qui était arrêté sur le côté gauche de la route démarra et braquant comme pour prendre sa droite, nous barre la route. Je vis descendre une dizaine d'individus, peut-être davantage, armés de mitraillettes et quelques-uns de mousquetons. Le prisonnier sauta le premier et s'élança dans la direction des assaillants. Dans le même temps, le francs-garde Laurent dirigea son arme sur le fuyard et l'abattit de 3 ou 4 balles. Au cours de cette course, m'étant retournée, il m'a semblé, autant que j'ai pu me rendre compte, que plusieurs individus soulevaient notre prisonnier.
Après-guerre, le 22 juin 1945, l'Assemblée consultative provisoire rend un premier hommage à Jean Zay, toujours porté disparu. Le 5 juillet, la condamnation indigne du tribunal militaire de Clermont-Ferrand d'octobre 40 est annulée. C'est certes une première victoire pour Madeleine. Mais deux mauvaises surprises l'attendent lors du procès Pétain en juillet 45. Le président de la Haute Cour de justice, Paul Mongibaud, refuse tout d'abord de l'entendre en qualité de témoin. Qu'à cela ne tienne, elle écrit alors une longue lettre. Nouveau refus, sous le prétexte fallacieux, je cite, de ne pas donner à cette audience une allure d'ordre un peu passionné, sentimental. Du coup, Jean Zay ne sera même pas évoqué durant le procès Pétain, un comble. Pourtant, comme le rapporte l'historien Gérard Boulanger dans l'affaire Jean Zay, le maréchal Fellon adresse le 6 août 44 une lettre à Pierre Laval, dans laquelle, sentant sans doute le vent tourner, il remet soudain en cause l'action néfaste de la milice. C'est donc Pétain qui dit ça. Lettre à laquelle Joseph Darnand, chef de l'organisation collaborationniste, répond de façon cynique.
Pendant 4 ans, j'ai reçu vos compliments et vos félicitations. Et aujourd'hui que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tâche de l'histoire de France. On aurait pu s'y prendre plus tôt.
L'angoisse continue pour la famille de Jean Zay, qui ignore toujours tout son sort, même si son assassinat reste la thèse la plus probable. Or, le 22 septembre 1946, deux chasseurs découvrent par hasard les restes de deux corps au fameux Puits du Diable. Non identifiés, ils sont inhumés au cimetière de Cussé. Il faudra attendre le printemps 1948 et les révélations du milicien Charles Devel, arrêté le 17 mars dès son arrivée à Caracas au Venezuela, pour authentifier le corps de Jean Zay grâce à son empreinte dentaire. Sa dépouille est alors transférée au grand cimetière d'Orléans. Des funérailles officielles y sont célébrées le 15 mai 1948, soit près de 3 ans après sa mort.
Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever, je vous prie.
Pourtant, le tribunal militaire permanent de Lyon n'ouvre le procès Devel que le 23 février 1953 au fort de Montluc, 2 jours durant. L'ancien milicien comparaît seul. Ses deux autres complices sont absents. Millou a réussi à se mettre à l'abri à l'étranger. Cordier a été arrêté en août 1944 près de Belfort et exécuté. Rappelons qu'il s'agit d'un tribunal militaire. Madeleine Zay ne peut donc pas se constituer partie civile. Pire, elle ne sera même pas entendue comme témoin. L'avocat de Devel, le célèbre Maître Floriot, lui plaide l'irresponsabilité. Son client, qui par ailleurs a d'autres crimes sur la conscience, aurait agi sous l'influence des attaques haineuses de Philippe Henriot, publiées sans cesse dans le journal collaborationniste « Je suis partout » et des diatribes antisémites de l'extrême droite. La peine de mort est requise, mais le tribunal lui accorde les circonstances atténuantes. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, Devel est libéré 2 ans plus tard, parce que la France veut tourner la page de la collaboration. Une France décidément bien ingrate et sans mémoire. Car après une mort civile en 1940, une mort physique en 1944, c'est une mort mémorielle qui frappe Jean Zay après 1953. Et ce, malgré les efforts incessants de Madeleine et de ses deux filles, Catherine et Hélène, pour faire connaître la vie et l'œuvre de leur père. Il faudra lutter aussi contre les mensonges de l'histoire. Ainsi, la plaque apposée sur le lycée Jean Zay d'Orléans portera jusqu'en 1944 l'inscription « À Jean Zay, victime de la barbarie nazie le 20 juin 1944 ». On peut y lire désormais « À Jean Zay, assassiné par la milice du régime de Vichy le 20 juin 1944 » et ça n'est pas la même chose. Enfin, consécration suprême, Jean Zay entre au Panthéon le 26 mai 2015 aux côtés de 3 résistants et résistantes, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antoniouse et Pierre Brossolette, sous la présidence de François Hollande.
Jean Zay, c'est la République sociale, qu'il considérait comme l'aboutissement du chemin vers l'égalité, la République émancipatrice, qui travaille inlassablement à promouvoir l'accès de tous au savoir, à la connaissance, à la culture. Alors assassiner Jean Zay, c'était pour ces meurtriers profaner la République.
Mais 71 ans après, les détracteurs de Jean Zay sont toujours présents. Les associations d'anciens combattants contestent son entrée sous la coupole au prétexte que Jean Zé n'a pas combattu comme un résistant, arme à la main. Et pour cause, il était en prison. Pourtant, en s'embarquant sur le Massilia le 20 juin 40, il est un résistant de la première heure, que ça leur plaise ou non. Un combat qu'il a poursuivi sans relâche, on l'a vu, stylo à la main, depuis sa cellule. En un mot commençant, Jean Zé est bien ce qu'on appelle un grand homme, et donc à lui, la patrie reconnaissante. Aujourd'hui, Jean Zé et deux invités pour l'évoquer. Sa fille, Hélène Mouchard-Zé, bonjour.
Bonjour.
Et l'historien, Olivier Loube, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Affaires sensibles est une émission, il arrive qu'elle soit une mission pédagogique, en l'occurrence, et c'est avec ce sentiment que nous avons contribué à faire mieux connaître Jean Zé, voilà, et avec une certaine émotion d'ailleurs. Et d'où la question, Hélène Mouchard-Zé, malgré vos efforts, les efforts de certains médias aussi, hein, à faire connaître Jean Zé à travers des documentaires ou des émissions comme celle-là, il est resté longtemps dans l'ombre, comme le récit vient de nous rappeler. On lui doit pourtant tant d'initiatives et de progrès dans les domaines de la culture, de l'éducation nationale. Quel est donc ce mystère?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que sa mémoire a eu le même sort que la mémoire concernant la déportation des juges de France, à savoir la collaboration. C'est-à-dire qu'à la libération, on a préféré célébrer la résistance intérieure, la France libre, et on a bien fait de le faire, mais on n'avait aucune envie d'évoquer la collaboration et les crimes de la collaboration. Et donc Jean Zé a été assassiné par des Français. Vous avez tout à l'heure évoqué ces plaques où tout est fait pour supposer que c'était les Allemands. Et moi, quand j'étais enfant, j'entendais, et je l'entends encore, dire que c'était les Allemands. Donc il y a cette première raison. La deuxième raison, c'était que il n'appartenait pas aux grandes mémoires de l'époque, la mémoire gaulliste, la mémoire communiste, la mémoire de son parti radical. Ben faut bien reconnaître, a été très défaillante à la libération. Et donc il n'a pas été, ou la mémoire pour Blum par exemple des socialistes. Donc il n'a pas été porté par une mémoire politique. Enfin, je dirais que tout ce qu'il a fait ou engagé, que vous avez rappelé dans votre émission, à savoir toutes ces...
C'est impressionnant.
C'est très impressionnant. Mais ça a continué après la libération. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire aboutir. Mmh. Par exemple, l'ENA, le Sénat s'est opposé. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Mais ça a été le Festival de Cannes, ça a été réalisé à la libération. Et on a un peu oublié que, eh bien, c'était des idées qui venaient, et même des réalisations, parce que le Festival de Cannes devait avoir lieu. Et donc, il y a une certaine... comment dire? Et puis, on avait tout redémarré. Il n'était plus là. C'est Antoine Prot qui le dit beaucoup. Il n'était pas là. Pendant 4 ans, il était absent. On ne savait pas ce qu'il était devenu. Donc, c'est un enchevêtrement de raisons qui font que, en effet, sauf, je dirais, dans la mémoire profonde de l'éducation nationale, des instituteurs, des enseignants, des laïcs,
D'où tous ces collèges et lycées qui portent
voilà,
son nom.
Hein, oui. Et en particulier dans le Nord, il y en a beaucoup. La mémoire de laïque l'a beaucoup célébrée.
Alors justement, vous avez rappelé le changement de plaque. Hein, c'est victime de la barbarie nazie. Et là, on rétablit la vérité. Victime aussi, et peut-être surtout, de la collaboration des Français et du régime de Vichy. Et alors, les présidents de la République, de la Ve République, se sont... tous exprimés sur ce point-là, et avec beaucoup de gêne, pour beaucoup, jusqu'à Jacques Chirac. On va écouter quelques-uns des présidents de la République s'exprimer sur ce sujet.
Pour De Gaulle, la vraie France était à Londres. Pour Pompidou, il faut oublier le temps où les Français ne s'aimaient pas. Pour Giscard d'Estaing, la célébration du 8 mai 1945 doit être supprimée. Pour Mitterrand, la France n'est ni coupable, ni responsable d'un crime imputable pour partie à un occupant barbare. Il faudra attendre le 16 juillet 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs.
Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français... secondé par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable.
tirée du film documentaire de Catherine Bernstein, Un crime français. Comme ça, maintenant, les choses sont claires. Hélène Moucharzé, une dernière question. Dans quelques mois, il y aura la commémoration des 80 ans de l'assassinat de votre père à Paris et à Orléans. Quels seront les temps forts ?
Il y aura pas mal de choses. D'abord, beaucoup d'établissements scolaires, mais comme déjà plusieurs années, qui rappellent par des actions pédagogiques son action. Il va y avoir une publication dans la collection bouquins de textes, certains publiés. Vous avez mentionné Souvenirs et solitude, ce qui est son grand œuvre, si je puis dire, qui parle à la fois du passé, du présent très douloureux de la présent, et de l'avenir. Hein. C'est-à-dire que comme tous les résistants, même quand ils sont dans les maquis, ils pensent à ce qu'il faudra faire à la libération.
C'était le CNR. Le CNR n'a fait que ça.
Complètement. Pour établir une république plus forte et plus juste.
Et plus sociale.
Et plus sociale. Donc ça, c'est vraiment très présent dans ce livre. Mais il écrit beaucoup en prison. Et alors, ce livre va rappeler des choses déjà publiées, mais aussi des inédits qui sont, par exemple, les chroniques qu'il faisait dans le journal de son père, La France du Centre, à peu près entre 32 et 36, après il est ministre, il n'a plus le temps, qui évoque beaucoup la situation de l'époque. Et je ne développerai pas, mais je le dis quand même, avec des résonances dans la période actuelle qui sont absolument sidérantes.
Mais bien sûr.
Je n'ai pas le temps de développer.
Non, on n'a vraiment pas le temps, mais on comprend exactement ce que vous voulez dire.
Et également des discours qu'il a faits, parce que comme le souligne Antoine Pro, à l'époque, les ministres écrivaient eux-mêmes leurs discours, et parfois c'était d'autres qui les faisaient, tandis que maintenant, c'est souvent l'inverse. Donc, certains de ces discours sont magnifiques. Enfin, je pense au discours sur les obsèques de Ravel, sur les obsèques de Debussy, beaucoup de discours très longs qu'il écrivait lui-même. On a ces manuscrits, ces ratures, etc. Donc ce volume dans la collection bouquins va rappeler tous ces écrits. Et je rappelle que moi, je suis convaincue que s'il n'avait pas fait de politique, il aurait été écrivain. Il retrouve l'écriture quand il est en prison, hélas, dans des conditions terribles. Et c'est l'écriture en particulier qui va l'aider à se tenir beaucoup, écrire chaque jour, écrire. C'est très important, je crois. Et donc, ces écrits de prison étaient également déjà édités, en particulier la correspondance. Et je rappelle que dans les actes de résistance, c'est lui qui a rédigé les résumés du procès intenté à Blum, le procès de Rion, qui fait que ce procès a abouti à la déconfiture de Vichy.
Donc Blum retourne le tribunal avec un argumentaire extraordinaire.
C'est extraordinaire, il faut lire ce que dit Blum. Et donc, c'est Jean Zay dans sa prison, parce que la belle-fille de Blum va le visiter, il a les sténos, il les résume, et ça passe à la résistance. Dans mon landau.
Non, oui, c'est vrai, première résistante de France.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Olivier Loube, je me tourne vers vous. Maintenant, vous êtes historien, spécialiste de l'école et de la nation, du cinéma et de Jean Zay. Vous avez justement publié en 2021 une biographie de lui, intitulée Jean Zay, la République au Panthéon, aux éditions Echo. Donc, Jean Zay entre au Panthéon en 2000, enfin, sa mémoire entre au Panthéon en 2015. Et là, il y a encore de la polémique. Enfin, comment peut-on encore entretenir une polémique quand on se penche sur la vie et l'œuvre de cet homme-là? C'est quoi les ressorts de cette polémique?
En 2015, on a été surpris parce que, du côté politique, en revanche, il y a une forme d'unanimité très très large autour du fait de célébrer Jean Zay. Et il faut la mémoire longue d'une mémoire courte, comme pourrait dire Jean Cassou. Cette mémoire courte extrêmement puissante, ancrée, c'est celle d'une extrême droite ultra-essentialiste qui a une mémoire d'au moins un siècle, depuis le drapeau, parce que ce qui ressort, et vous avez cité ce texte, ce qui ressort en 2015, c'est à nouveau l'insubmersible drapeau, ce texte qui est censé prouver, et qui démontre de fait le contraire quand on le lit vraiment, que Jean Zay était un antipatriote. Or, ça va avoir un écho qui va être fugace pour certaines de ces associations, ces 40 associations qui vont signer ce texte-là, mais très vite, les plus importantes s'en retirent. Il n'empêche que ça va avoir un écho qui va obligé d'ailleurs le gouvernement à réagir. Le ministre de l'époque, Kader Arif, a fait un communiqué pour contrer ce texte et ce propos, parce qu'il y a là une mémoire longue, extrêmement vivace, qui au fond vient dire ce que nous avons parcouru pendant l'heure de cette émission, c'est-à-dire le fait que la haine qui entoure Jean Zay, c'est une haine autour de ce qui fait que l'on est ou pas français, la façon dont on se considère comme faisant partie de la communauté. Pour une partie résiduelle, mais extrêmement active et durable, il y a l'idée au fond que si l'on est d'une famille juive protestante, franc-maçon, que par ailleurs on a été quelqu'un de gauche engagé autour de Léon Blum dans le Front Populaire, eh bien on ne peut pas et on ne sera jamais français, quoi que l'on fasse, quoi qu'il arrive. Et c'est cette mémoire-là qui ressort. Vous avez d'un côté l'idée d'être français ouvert, universaliste et humaniste, c'est la République qu'incarne Jean Zay, et puis vous avez face à ça, et c'est pour ça que le drapeau est un révélateur formidable jusqu'à nos jours, ceux qui continuent à croire que le drapeau dit le contraire de ce qu'il affirme, ce sont ceux qui ne veulent pas d'une identité commune qui soit ouverte, unie autour des différences. D'ailleurs, depuis l'histoire de l'affaire Dreyfus, et c'est pas un hasard s'il a cette peine-là qui lui est accolée, il y a bien cette idée, au fond, que ce qui fait l'universalisme républicain a été construit par les minoritaires. Et que ce sont des protestants, que ce sont des juifs, pas que, mais ceux qui savent très bien que c'est dans la communauté universaliste qu'il y aura la protection des plus fragiles et des plus faibles. Ce sont ceux-là qui ont construit notre République. Et tous ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une façon d'être par la haine, ceux-là, évidemment, suivent le drapeau et détesteront tous les Jean Zay. Jean Zay, là, c'est un nom générique, mais c'est lui.
Ah oui, mais j'allais vous dire, ça pourrait être les autres. Ça a été Blum, mais Blum a eu sa part aussi, hein, de calomnie accompagnée. Ah oui. Salin Gros, qui suicide même. Et pourquoi Jean Zay, plus que d'autres? C'est ça que j'ai du mal à...
Il cumule tout ce que Charles Maurras appelait l'anti-France. Hein, les états confédérés de l'anti-France. Dans la pensée maurassienne, il coche toutes les cases. En ce sens-là, il ne pouvait pas le rater, si vous voulez, parce qu'il coche toutes les cases. Il est à la fois, effectivement, on a oublié l'anti-protestantisme. Il est d'abord protestant par son côté maternel, très fort, par aussi son éducation. Il est juif, bien sûr, toute la famille paternelle. Il est franc-maçon. Et ipso facto, il incarne le quatrième état qu'on appelle le Métec, c'est-à-dire celui qui ne peut pas être français. Donc vous avez les quatre états confédérés de l'anti-France. C'est un condensé des figures de l'incarnation de la haine des maurassiens, donc du pire de l'extrême droite française.
Parmi son œuvre, qu'est-ce que vous... Alors on va pas faire de hiérarchie parce que tout est utile, mais enfin quand même, c'est quoi ses plus grandes œuvres pour vous ?
Hélène Mouchard-Zé vient de le rappeler, le maître ouvrage, c'est Souvenirs et solitude, parce que...
Oui, attendez, je parle de l'œuvre politique.
Ah, l'œuvre politique. Ouais. Le plus formidable, eh bien, c'est tout ce qu'il fait et qui ne réussit pas, mais qui va ensemencer le reste. Pour moi, c'est ça le plus fort de l'action de Jean Zay. C'est ce tournant dont il faut prendre conscience de l'extraordinaire modernité qui fait que désormais, on peut plus se contenter de fabriquer une république qui soit une démocratie politique libérale, celle à laquelle nous sommes toujours et à si juste titre attaché, mais que pour que cette République puisse être une démocratie libérale, il faut qu'elle soit aussi une démocratie sociale. Et donc, lorsque Jean Zay, par la culture, cherche à rendre une école qui soit une école beaucoup plus fraternelle, mais surtout ouverte à tous pour la réussite, on peut l'espérer, de tout le monde, eh bien, il est en train de solidifier ce qui fait la République comme démocratie libérale, politique. Donc au fond, qu'est-ce qui compte dans ce qu'a fait Jean Zay ? Tout ce qui va dans le sens de ce qu'il appelait une maison claire et aérée en parlant de sa réforme de l'éducation nationale, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de la justice sociale. Parce que cette génération réaffirme, après celle de Jean Jaurès, c'est un socialiste démocrate, il n'est pas social-démocrate seulement, ça suffit pas pour le définir, eh bien il y a cette idée qu'il n'y a pas de démocratie face au fascisme et aux dictatures sans qu'il y ait une démocratie sociale assumée. Hein, l'égalité sociale, c'est ce qui permet la liberté politique.
Alors on rappelle que si Orléans renvoie par réflexe à Jeanne d'Arc, ça doit renvoyer aussi à Jean Zay, Hélène Mouchard-Zay, il est d'Orléans. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Françaises et les Français retiennent de lui, finalement ?
Ce qui vient d'être dit, que... D'une certaine façon, il incarne ce qu'on appelle la République avec toutes ses valeurs, mais aussi qu'il l'a incarné et qu'il a combattu, parce qu'il faut rappeler ce combat. J'ajouterais peut-être à ce qu'a dit Olivier que dans ses problèmes de mémoire, Il a été opposé dès le départ, dès 1933, dès qu'Hitler arrive au pouvoir. Il alerte, alors que beaucoup de pays autour disent on va pouvoir s'accommoder avec Hitler, peut-être on va s'arranger, ça va aller. Ça va... Non, lui, dès le départ, il dit attention, la menace, elle est là dès le départ. Oui. Je crois que c'est une grande leçon aussi quand
oui,
on
va
retenir.
Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon, Pétain, c'est peut-être le moindre mal, il va peut-être nous protéger. Oui. Et qui sont devenus résistants après. Hein.
Voilà.
L'école du Riage, notamment. Lui, c'est, Jean Zé, c'est dès le début.
Dès le départ, il est très net par rapport à Hitler. Et d'ailleurs, à chaque fois que Hitler avance ses pions, on voit bien, il a dit lui-même au moment où il a envahi la Ruhr alors qu'il n'avait pas le droit selon le traité de Versailles, Hitler lui-même a dit s'il y avait une protestation très ferme des pays, il y aurait retiré ses troupes. Or, il y a eu des protestations très molles. Ça, je crois que c'est une grande leçon, c'est ce que... On appelle les résistants avant l'heure, d'une certaine
c'est ça,
façon.
Exactement.
L'idée que c'est formidable de résister quand la catastrophe est là, mais peut-être qu'il faut commencer à résister avant qu'elle n'advienne et avant c'est qu'elle sûr. Arrive. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir lire dans notre présent les indices peut-être les plus minuscules. Parfois, c'est quelqu'un qu'on refuse. Des choses minuscules qui sont une atteinte au pacte républicain et qui peuvent parfois mener au pire. Toute la question, elle est là. Donc, pour moi, dans sa vie, il en est mort de ça. Tout à l'heure, vous parliez de Blum, mais Blum, je crois que ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'il a été transféré en Allemagne. Sinon, il aurait eu le sort de Jean Zé Mandel. Donc, ces hommes qui ont... C'est cette leçon-là, pour moi, qui est très importante pour notre présent, parce que comment éviter le retour de péril, c'est cette vigilance-là.
Une toute dernière question, il nous reste 25 secondes. Quand vous avez entendu Chirac au Vel'd'Hiv, le discours du Vel'd'Hiv, qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'ai ressenti ça comme l'aboutissement. Il ne faut pas oublier que la déclaration de Chirac a été préparée par beaucoup d'actions que je ne vais pas rappeler, par livres,
il reste 5 secondes.
Par des films. Donc, d'une certaine façon, c'est l'aboutissement. Oui, il fallait le dire. Il fallait qu'un président de la République le dise.
Et ça fait écho à la plaque. Hein, à
bien sûr.
Exactement,
bien sûr.
La plaque commémorative de Jean Zé. Merci madame, merci monsieur.
Merci.
Infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de Jean Zé, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique, il y avait Quentin Rouchy.